rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaud Dautuil au micro de Radio Présence pour notre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Bonjour Monseigneur Camiade.
Bonjour Thibaud et bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes l'évêque de Cahors et avec vous pendant ce mois d'avril, nous continuons à évoquer la figure de l'un de vos prédécesseurs, le bienheureux Alain de Solminiac, qui était à la tête de votre évêché au cours du XVIIe siècle. Nous avons vu les deux émissions précédentes, la naissance de sa vocation, son rôle d'abbé de l'abbaye de Chancelade, et puis nous le découvrons maintenant en train d'être appelé à prendre la tête de l'évêché de Cahors. À l'époque, c'est rien moins que le roi de France qui l'appelle, c'est quand même pas rien. Donc il a été effectivement distingué dans son travail à l'abbaye de Chancelade, et donc il est appelé à cette nouvelle charge. Racontez-nous ça.
Oui, donc nous avions parlé la dernière fois de l'appel qu'il a refusé d'être évêque de Lavaur. Et puis finalement, c'est Richelieu qui, donc sous la responsabilité du roi de France, gérait ces questions de nomination. Lui dit, viens le trouver, il dit, bon écoutez, acceptez l'évêché de Cahors. Et je vous promets que j'obtiendrai du pape la dérogation pour que vous gardiez l'autorité sur l'abbaye de Chancelade de façon à éviter qu'elle parte sous l'influence de Sainte-Geneviève. Et cette garantie qui permettait à la réforme de Chancelade de se prolonger, eh bien, enlève les raisons objectives que Alain pouvait avoir. Il lui reste les raisons subjectives qu'il soumet tout de même de son indignité. Il se considère pas capable. Voilà. Bon. Et finalement, il va trouver le roi en lui disant que il reconnaît en lui le signe de l'appel de Dieu, puisqu'il a ce mandat de faire les nominations. Après, c'est bien sûr le pape qui valide toujours les décisions, mais le système est que le choix, le discernement est délégué au roi à ce moment-là.
Et donc il ne se précipite pas pour prendre la cathèdre. Il commence d'abord par... Il va à nouveau se former, réfléchir, prendre du recul. On dit qu'il fait un petit tour incognito de quelques paroisses dans Cahors. Et puis surtout, pour se repositionner un petit peu dans un contexte historique, on est donc après le Concile de Trente. C'est le siècle de la contre-réforme, ou en tout cas de la réforme de l'Église catholique. Est-ce que vous pouvez nous couper un petit peu ce décor historique?
Dans le diocèse de Cahors, il y avait quand même pas mal de prêtres. On n'est pas dans les mêmes situations qu'aujourd'hui.
Oui, on cite 900 prêtres, oui, c'est ça, pour 800 paroisses. C'est impressionnant.
Mais 800 paroisses, c'est plus qu'aujourd'hui, même plus que le nombre d'églises aujourd'hui, puisque le diocèse de Cahors s'étendait bien au-delà du Lot, une grande partie du Tarn-et-Garonne jusqu'aux portes de Montauban, une partie du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, une partie de l'Aveyron actuelle. Donc c'était beaucoup plus étendu. Et c'était aussi un des diocèses de France les plus en vue. L'évêque de Cahors était en même... Bon, il y avait une université à Cahors, et l'évêque de Cahors était en même temps comte de baron et comte de Cahors. Il avait donc une autorité politique, un rayonnement qui était assez décisif sur l'histoire. Et on verra d'ailleurs qu'à un moment de la révolte du prince de Condé, Alain va jouer un rôle décisif pour faire échouer cette révolte contre le roi. Alors bon, la révolution aura lieu plus tard, mais sur le moment, son rôle politique n'est pas du tout négligeable. Nous aurons d'ailleurs un colloque qui nous aidera à mieux voir cela.
Oui, le 9 juin.
Le 9 juin prochain. Oui. Mais donc, quand il arrive à Cahors, le peuple, il fait ça, quand il va faire une première visite pastorale, il dit que le peuple qu'il rencontre, quand on lui demande de réciter le credo, récite le pater. Ça dit beaucoup de choses sur l'état des troupes, c'est-à-dire qu'il y a une certaine piété populaire qu'on ne connaît peut-être pas de la même manière aujourd'hui. Il y a un attachement à Dieu, même un désir, mais il y a un manque d'instruction sur la foi.
C'est une véritable ignorance religieuse du peuple, c'est ça.
Et même les prêtres sont pas tous très bien formés, même certains pas du tout. les prêtres, c'est le système des bénéfices toujours, et donc ils ont accepté des charges de paroisse parce que ça leur permet de vivre, mais ils n'ont pas tous une vocation très
assurée. C'est un peu un détournement de la charge.
Surtout, ils sont pas de mauvaise volonté, parce que les gens croient en Dieu à l'époque, mais ils ne connaissent pas ni leurs droits ni leurs devoirs, et notamment ils délaissent les paroisses, certains ne célèbrent même pas la messe le dimanche, il n'y a pas d'enseignement, il y a des prêtres qui ont eu des grades universitaires, mais ceux-là ne savent pas parler en occitan pour enseigner au peuple, donc les gens ne comprennent pas non plus la langue, et il y a une vraie difficulté. Voilà. Alors ils trouvent des prêtres qui sont plus à la chasse que là. Certains ont aussi des maîtresses.
Donc il y a vraiment du travail pour Alain Solomignac. Il y a beaucoup.
Ils sont tous occupés à leur mission.
Oui. Voilà. Mais effectivement, c'est une région qui est encore qui garde les traces des guerres de religion.
Et voilà. Alors beaucoup d'églises ont été démolies, abîmées, saccagées, pillées. Donc il n'y a plus de d'ornements liturgiques, voilà. Et d'ailleurs cette époque-là, et Alain de Solmignac va beaucoup encourager, et on dit qu'à son époque il n'y a jamais eu autant de travail pour les orfèvres de la région, mais aussi la constitution c'est le début de la constitution de nouveaux rétables. Alors tous les rétables baroques que nous avons dans le Lot datent pas forcément tous de Alain de Solmignac, mais dans les années qui suivent, ça se fait pas non plus en 8 jours, mais en tout cas il y a une rénovation, un retour qui se voit aussi sur le plan matériel, mais qui est d'abord pour lui le souci de réformer les cœurs.
Alors pourquoi réformer ? Parce qu'effectivement on est dans ce contexte de réforme de l'Église qu'Alain Solmignac porte très fortement.
Et alors il a cette double attention de prêcher la foi, d'essayer d'enlever l'influence calviniste, parce que on n'est pas dans un contexte d'œcuménisme, on est encore dans un contexte de combat, si on veut, sauf que comme Saint François de Sales, lui le fait davantage par la conviction, la prédication, voilà, il essaye d'attirer à la foi catholique par la conviction, par des disputes publiques, les gens aimaient beaucoup à l'époque. Bon, aujourd'hui, on aime les débats télévisés, mais c'est un peu ça à l'époque sur les places publiques. Par la discussion, convaincre, et jamais par la brimade, jamais par l'humiliation, comme certains prêtres avaient tendance à le faire. On parlait à un moment donné du fameux curé de Caussade, c'était dans le diocèse de Cahors à l'époque, même si dans le Tarn-et-Garonne maintenant, qui faisait payer la dîme, y compris aux calvinistes, et le pistolet sur la tempe s'il ne payait pas. Là, c'est pour vous dire la mentalité de l'époque.
Oui.
Et le bienheureux Alain n'est pas du tout dans cette logique-là. Voilà, alors il tient à la fois cette dimension de fermeté de la doctrine catholique, et en même temps de respect des consciences, et de respect des personnes qui ne veulent pas suivre. Il essaye de convaincre.
Effectivement, parce que il pouvait pas lui placer sur YouTube une vidéo pour convaincre tout le monde. Lui, il prenait sa crosse et il a fait le tour. On dit qu'il a fait 9 fois pendant son ministère, 9 fois le tour de ses 800 paroisses. C'est juste extraordinaire comme modèle, c'est épuisant.
Tout à fait. Alors moi, j'ai prévu de faire des visites pastorales. Oui. Bon, je m'y prendrai peut-être pas tout à fait de la même manière que lui, mais enfin, je vais essayer de passer aussi un peu partout, et je me rends compte du temps que ça prend.
Oui.
Voilà. Mais on voit il passait pas effectivement tout son temps dans son évêché.
Est-ce que c'est encore un modèle aujourd'hui, ce rôle des visites pastorales?
Les visites pastorales, ça reste toujours d'actualité dans la mission des évêques. Hein, c'est même central. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec plusieurs évêques qui disent, cette fidélité aux visites pastorales, c'est vraiment quelque chose de magnifique dans la vie du bienheureux Alain. C'est un encouragement pour nous tous. Un autre me disait, au fond, c'est là où nous sommes le plus évêques quand nous faisons des visites pastorales. C'est-à-dire quand nous rencontrons les gens, quand nous allons les encourager dans la foi, quand nous allons voir comment ils vivent, découvrir notre peuple. C'est là que le lien du bon pasteur au milieu de son peuple, qui connaît ses brebis, que ses brebis connaissent, qu'elles connaissent sa voix et elles le suivent, c'est pas pour, voilà, c'est pour conduire au Christ qui est le bon pasteur, mais c'est là qu'on est dans, vraiment au cœur de notre tâche.
Et est-ce que vous êtes appelé à être de plus en plus itinérant, vous et puis aussi vos prêtres? Parce qu'on connaît des exemples en Ariège, il y a un prêtre itinérant, en Haute-Garonne en ce moment il y a une caravane missionnaire, donc il y a ce mouvement qui est de plus en plus fort.
On voit bien que c'est une réalité qui se développe. Après, dans notre rural, nous avons encore un certain nombre de gens qui sont des gens enracinés, mais on voit aussi que les populations les plus jeunes bougent beaucoup, donc cette itinérance fait partie aussi de la vie actuelle. Certainement, les prêtres maintenant ont à charge tellement de territoires qu'ils ne peuvent pas être toujours, ils doivent pas être toujours au même endroit. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi besoin dans notre église de points de repère. C'est-à-dire, il faut des pôles fixes où on sait qu'on peut se rassembler pour trouver d'autres chrétiens, pour faire église. Mais il faut les deux. Il faut cette itinérance qui est missionnaire et il faut ces pôles fixes. Voilà, comme les abbayes, là on a parlé de l'abbaye de Chancelade qui était un pôle de rayonnement.
Et justement, il utilise aussi les forces de cette abbaye pour envoyer aussi les moines sur les routes, donc il les fait sortir de leur abbaye.
Parce qu'on est enraciné dans un lieu, parce qu'on a un lieu de prière et de ressourcement et de structuration de sa foi et de sa vie spirituelle, on est capable ensuite de partir et d'aller, d'être itinérant et de circuler pour aller, comme dit le pape François, aux périphéries, mais pour aller vers là où les gens se sentent plus abandonnés. Et Dieu sait si dans nos déserts ruraux, beaucoup de gens ont ce sentiment quelquefois d'abandon par toutes les institutions, et y compris un peu par l'Église. Et c'est pour moi toujours une expérience douloureuse qu'on vit aussi un peu en ce moment, d'un endroit où il y a un prêtre, et puis ben voilà, maintenant il n'y en aura plus. Ou en tout cas, au moins pour l'année qui vient, voilà. Mais il ne faut pas que les gens se sentent abandonnés, en tout cas pas par le Christ, ni même non plus par l'Église.
Merci beaucoup, Mgr Camiade, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, toujours autour de la figure d'Alain de Solmignac.
Rencontre avec nos évêques,